Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Présence dans le Lot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview un peu spéciale, un portrait, le portrait de M. Kaufmann. Vous êtes aujourd'hui dans les locaux de Radio Présence. Bonjour M.
Bonjour.
Alors, un petit récapitulatif sur votre vie. Vous avez 46 ans, vous êtes actuellement à ESH et donc à Radio Présence en ce moment pour suivre une élève de BTS NDRC et pas n'importe laquelle, Océane Rotou, celle qui chapeaute un petit peu le partenariat avec le Refuge Canin Lotois, dont vous allez en entendre parler au courant de cette année. Alors M, vous n'avez pas été à ESH toute votre vie. Avant de revenir sur le pourquoi du comment, vous avez voulu faire ce métier, pratiquer ce métier. Vous avez été graphiste, manageuse dans les bars en Angleterre et tapissier d'ameublement. M, un parcours assez éclectique. Première question pour vous découvrir un petit peu sur l'antenne de Radio Présence. Beaucoup de voyages, une expérience riche, mais un point commun, une envie d'être en contact avec l'autre. D'où ça vient, cette envie de faire le lien ?
Enfant, j'étais assez solitaire et à partir des années lycée, j'ai commencé à développer des liens avec des amis au début. Et puis bien plus tard sont venues les années voyage, où en effet on rencontre beaucoup de gens, on s'entraide beaucoup quand on voyage seul.
Est-ce que vous pouvez dire que c'est cette envie de faire le lien qui a fait que vous avez fait beaucoup de voyages ?
C'était plutôt la découverte, le voyage. J'avais envie d'apprendre, j'avais envie de voir d'autres choses. En effet, j'étais graphiste depuis un certain temps.
Vous avez fait une école ?
J'ai fait une école à Paris renommée Corvisart sur 4 années. Bac et BTS. Ensuite, j'ai fait de l'alternance, ce qui m'a amené à travailler dans une entreprise qui m'a directement embauchée.
Et c'est là où vous vous êtes rendu compte que finalement, le monde de l'entreprise n'était pas fait pour vous ?
Alors, ce n'était pas le monde de l'entreprise, c'était le manque... Je regardais autour de moi tout ce qui se passait et je me disais, est-ce que j'ai envie de faire ça dans 10 ans ? Alors certes, j'aimais créer, j'aimais être dans le graphisme, mais j'avais envie de voir du monde. Et en un mois... J'ai décidé d'arrêter d'être auto-entrepreneur, parce qu'à l'époque c'était freelance, on appelait ça. Et j'ai tout lâché et je suis partie en aide humanitaire en Inde. Voilà, c'était une aide humanitaire que j'ai fait pendant à peu près un mois, suite à quoi j'ai eu l'occasion d'aller au Sri Lanka. J'ai visité, j'ai vu beaucoup de choses, ce voyage m'a beaucoup émue. Et en effet, là on peut voir aussi, en faisant une aide humanitaire, le besoin d'aider. Ça a transformé un petit peu ma vie, j'avoue. Et je suis revenue de ce voyage en me disant, j'ai réalisé aussi que je ne parlais pas couramment l'anglais, que ça pouvait me porter défaut. Oui. Du coup, j'ai eu l'opportunité de partir en Angleterre. Et là a commencé 10 années de maison mère en Angleterre et beaucoup, beaucoup de voyages autour. Je travaillais, j'étais dans les bars, dans les restaurants. J'ai fini par manager, en effet. Et ensuite, je partais dès que j'avais un peu le montant qu'il fallait, je partais et j'allais découvrir le monde, voilà. Et après une dizaine d'années en Angleterre, 12 ans...
Le retour en France.
Le retour en France.
Alors justement, après vos années en Angleterre, retour en France, à Paris, un choix s'impose, il faut travailler.
Exactement.
Que faire ?
Alors au départ, je me suis remise à mon compte en tant que graphiste et je travaillais pour une association qui aidait les migrants en fait à faire comprendre, parce qu'ils ne parlent pas tous notre langue, donc je faisais des illustrations pour eux. Et très vite, j'ai compris que j'avais envie quand même de découvrir encore autre chose et de travailler avec mes mains. De là, j'ai été à l'Institut du Monde des Métiers d'Art et j'ai découvert le métier de tapissier d'ameublement. J'ai réussi à obtenir une formation qui se passait dans le sud, à Decazeville.
Pour répondre un petit peu à la question de pourquoi tapissier d'ameublement, je sais que l'anecdote est un petit peu intéressante. Il me semble que vous avez tourné des pages, vous avez pris un truc au hasard.
Oui, tout à fait. En fait, à l'Institut des métiers d'art, vous avez plusieurs classeurs qui sont par ordre alphabétique. Et j'ai décidé de ne pas aller vers le ABC parce que je ne fonctionne pas comme ça. Et en effet, j'ai pris peut-être le R au début et j'ai été vers le T. Et en tournant les pages, j'ai vu tapissier d'ameublement et là, ça a été pour moi une révélation. J'ai dit, mais on peut refaire les fauteuils parce qu'en fait, on ne le sait pas tous.
Et là, Decazeville.
Et là, Decazeville, pendant 9 mois. Alors, ça a été quelque chose, Decazeville. Maintenant, l'AFPA est fermée. Mais 9 mois, c'est très rapide pour apprendre un métier. Beaucoup trop. Mais on s'en est tous bien sortis parce que toute ma promo, on va dire une bonne moitié, est restée tapissier d'ameublement. Voilà. Et moi, ça m'a permis de découvrir, donc je voulais quitter Paris, la région parisienne, ça m'a permis d'aller découvrir un petit peu les alentours de l'Aveyron, et j'ai trouvé le Lot, et je suis arrivée à Cahors avec un grand coup de cœur, et après quelques renseignements et l'aide de la municipalité, il s'avérait qu'il manquait quand même de tapissiers, donc je me suis installée Au départ, il y a eu un atelier. Et puis, très vite, j'ai compris que ce n'était pas nécessaire de rester au centre-ville. Malheureusement, il faut savoir que le métier de tapissier d'ameublement ne permet pas non plus de... malheureusement, de se nourrir tous les jours. C'est un combat d'être artisan. Mon entreprise s'appelait M ta chaise, parce que j'ai la chance d'avoir un prénom avec lequel je peux beaucoup jouer. Donc, je faisais encore du graphisme, notamment pour les théâtres et de Cahors ou autour. Et à côté de ça, je faisais de la tapisserie. Voilà. Ça fonctionnait assez bien, mais j'avais quand même un manque.
C'est ce lien, ce contact que vous avez toujours eu.
Voilà. Ce lien que j'ai toujours désiré et je l'ai redéveloppé. Pour cela, j'ai passé un bilan de compétences via le Pôle emploi qui m'a orienté, je ne sais plus sur quelle société. Et une dame très gentille avec qui nous avons discuté, échangé. Et elle me voyait en fait travailler surtout dans de l'art-thérapie avec des enfants, par exemple. Et on en est venu à tomber sur une annonce de AVS à l'époque, auxiliaire de vie scolaire. Comme c'était une période c'était une période, si vous voulez, où on demandait des AVS en urgence.
D'accord.
Donc j'ai été contactée tout de suite au lycée Clément Marot à l'époque. C'était des contrats aidés CUI. Donc j'ai fini par faire deux années de contrats CUI, contrats aidés. À l'époque, c'était pour tout type de métier, c'était pour aider les gens à se relancer un petit peu. Et donc on faisait des petits contrats. Moi, le mien, c'était d'un contrat d'un an. Donc j'ai fait deux années de CUI. Ensuite, on nous a passé en CDD. Il a fallu faire deux CDD de trois ans pour enfin signer un CDI.
D'accord.
Donc à ce jour, ça fait à peu près 10 ans que je suis à ESH.
10 années de métier.
10 années de métier et j'y ai découvert un grand plaisir.
Aujourd'hui, donc ça fait 10 années de métier, vous êtes encore en poste en tant qu'AESH avec Océane Routou,
oui,
élève BPTS NDRC au lycée Clément Marot. Alors il faut quand même le rappeler, vous avez laissé un petit peu le métier de tapissier d'ameublement pour vous concentrer uniquement sur ce métier d'AESH qui vous a passionné pendant tant d'années. Quel regard vous portez sur ces années passées en tant qu'AESH ?
Alors j'ai beaucoup appris. Il faut beaucoup de patience. J'ai fait tout type d'âge, de la maternelle jusqu'à aujourd'hui post-bac avec Océane. Et il est vrai que chaque niveau, chaque enfant est différent. Il est vrai que c'est très, très difficile de... On est obligé de se faire confiance. Parce qu'en fait, AESH, c'est un métier qu'on apprend avec le temps et l'expérience. Les premières fois, on est très mal à l'aise, je dois le dire. On se retrouve en tant qu'adulte dans une classe avec... soit des professeurs, soit des instituteurs. Et on est bien accepté avec les années de mieux en mieux. Cependant, ça reste quand même, j'imagine, très dur pour un adulte qui est professeur d'avoir un autre adulte dans sa classe. Et j'ai vu l'évolution sur ces 10 dernières années. On est de plus en plus accepté là-dessus. Il y a une bonne, on fait partie d'une équipe pédagogique aujourd'hui. Mais j'ai vu beaucoup de situations qui, aujourd'hui, m'amèneraient à dire qu'on manque énormément de formation.
Il y a des lacunes dans ce métier.
Ah oui, énormément. C'est-à-dire qu'au départ, quand vous arrivez, alors je vous parle des années où c'était du CUI, donc contrat aidé, ou le CDD, on nous accueillait en tant que nouvelle AESH en nous donnant 60 heures de formation. Mais en fait, le problème, c'est, ça se passait au Monta, au lycée agricole. C'était une rencontre à l'époque, ça devait être 300 AESH. Aujourd'hui, ça a bien doublé, je pense. On nous expliquait comment faire, comment ça se passait. Mais on n'a jamais eu de formation. On ne sait pas ce que c'est concrètement de se retrouver avec un petit bout de chou ou une adulte, une pré-adulte, on va dire. On ne sait pas comment réagir et sans savoir que toutes les pathologies ne sont pas les mêmes. Donc il faut tout le temps se renseigner entre l'autisme, entre la dyslexie.
Et c'est ce qu'on disait un peu en amont de cette interview. On vous donne le dossier, il y a la pathologie dedans, mais on ne vous explique même pas ce que c'est en fait.
Non.
Vous devez vous renseigner.
Même dans le dossier, ce n'est pas expliqué. C'est à nous de nous renseigner. Nos propres chefs ne savent pas non plus. La MDPH, si vous voulez, on fonctionne avec un GEVASCO. C'est un dossier qui réunit toute l'équipe pédagogique. Et les parents en font la demande. Tout est lié avec l'école, bien évidemment. Et ensuite, il y a un nombre d'heures qui est indiqué, notifié par élève. Océane, par exemple, elle va être en individuel. Ça veut dire que j'ai que Océane à m'occuper. Et ça, c'est un vrai plaisir parce que ça veut dire que j'ai le temps de la découvrir.
C'est vrai que votre métier est quand même assez flou. Il y a même un flou pour les professeurs, un flou pour les parents. Est-ce que vous êtes un lien? Est-ce que vous devez faire les choses à la place de l'élève? Est-ce que vous êtes là justement pour retranscrire, écrire pour lui ou...
C'est ça. En fait, tout va dépendre justement de la pathologie de l'élève. Par exemple, dès le début de l'année, on va me dire, voilà, vous avez Océane cette année, M sur 20 heures, qui a telle pathologie. Vous devez scripter pour elle, reformuler et l'aider aussi pour déjeuner le midi. Donc, ça fait partie de ma tâche. Et il y a d'autres élèves où on va me dire, il faut juste lui reformuler la consigne. Mmh. Et en fait, j'en viens à ça, c'est que la reformulation, c'est très, très dur pour nous. Parce qu'on vient, normalement, on arrive à ESH avec au moins le niveau bac. Je ne sais pas quels sont les changements de nos jours là-dessus. Mais on n'a pas de diplôme pour devenir. Et c'est pas toujours facile d'être le petit génie qui arrive dans n'importe quelle classe. Et qui va expliquer et le triangle de Pythagore et...
Vous refaites un peu vos classes aussi.
Oui, on refait nos classes. Alors bizarrement, quand on est adulte, c'est vrai que c'est très intéressant de comparer aux enfants, de réapprendre. Mais par contre, des fois, on peut faire 3 sixièmes d'affilée. Donc ça peut être aussi... C'est très dur d'expliquer toutes les matières reformulées, même quand vous-même vous comprenez pas ou vous êtes pas dans le domaine. C'est très dur de s'adapter. Il faut vraiment s'adapter.
Qu'est-ce qui vous a apporté ce métier? Qu'est-ce qui vous a apporté en plus dans votre vie, dans votre expérience? Et ensuite, comment vous le changeriez s'il fallait le changer?
Ce que j'améliorerais, ce serait le statut. En effet, aujourd'hui, on n'a pas de statut. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes le deuxième métier classé dans l'éducation nationale après les professeurs. Nous ne sommes pas reconnus, il y a un gros manque de reconnaissance. On est un peu tiraillé entre les choix de l'académie, qui n'ont pas toujours réponse à tout parce qu'on découvre tout le temps. Les chefs d'établissement qui découvrent comme nous des fois des situations. On a vraiment un gros manque de reconnaissance, un manque de salaire aussi, je dois dire. Dans les points positifs, il est vrai qu'on a la quantité de temps de travail que l'on peut choisir. Soit mi-temps, soit un tiers-temps, soit un temps plein. Il y aurait vraiment besoin de créer un poste spécial pour les AESH avec un salaire. Parce que là, nous sommes au SMIC, mais en fait, quand vous êtes à 19h30, vous gagnez 800 euros. C'est très peu. Bon, ça va avec le temps de travail. Mais moi, quand j'étais tapissier, par exemple, je faisais 19h30 et je m'occupais à côté de mon élève. Donc, quand vous avez une entreprise...
Alors, quand on est ESH, il faut forcément faire un autre travail à côté pour pouvoir subvenir à ses besoins?
Oui, ou alors on a un conjoint qui a la chance de bien gagner sa vie. Mais il est vrai que c'est très dur d'avoir le salaire d'AESH.
Vous envisagez de quitter ce métier à cause de ça aujourd'hui, M?
Sincèrement, oui. Je pourrais parce que j'adore partager avec les élèves. Tous les élèves que j'ai rencontrés avaient tous une particularité. J'ai eu la chance de rencontrer des familles vraiment très sympas, très impliquées aussi, les parents. Mais oui, je pourrais en arriver à partir parce que déjà, bon, j'ai toujours aimé voir de nouveaux horizons. Mais aussi parce que ça devient très compliqué, oui.
M, si vous deviez partir sur quelque chose d'autre, on va dire, toujours quelque chose qui est en lien avec le public, vous iriez où?
Alors, il y a deux points. Personnellement, un jour, sur un bilan, pareil, j'ai un chef d'établissement qui m'avait dit « Qu'est-ce que vous aimeriez faire si cela était possible ?» J'ai dit « J'aimerais travailler, en fait, j'aimerais toujours écouter les enfants, les ados, les pré-adultes. J'aimerais pouvoir, moi j'ai une grande écoute à leur égard, et j'aimerais pouvoir trouver des solutions quand ils vont pas bien. » Donc j'avais proposé un poste qui forcément serait à créer, mais c'est impossible de nos jours. Ce serait entre l'assistante sociale et la CPE. Pouvoir assister, par exemple, parce que les CPE ont beaucoup de travail et elles peuvent pas toujours recevoir ou bon c'est pas toujours évident de nos jours et il est vrai que moi j'aimerais avoir le temps de pouvoir consacrer mon écoute aux élèves et leur trouver des solutions, par exemple l'orientation, qu'est-ce qui te ferait plaisir et essayer d'aller trouver tout ce qui est possible pour mieux les orienter. Donc c'est vrai que je serais plus à rester au lycée, ça c'est sûr. Et notamment, je me suis beaucoup découverte, si je devais rester en tout cas à ESH, je me suis beaucoup découverte en post-bac. Ça me plaît beaucoup plus parce qu'on peut échanger, ce sont des futurs adultes à venir et j'aime voir tout ce qu'on peut partager ensemble.
En 10 ans de métier, vous avez vu quand même la jeunesse évoluer. Est-ce qu'ils sont plus en souffrance aujourd'hui, nos jeunes, qu'il y a 10 ans?
La souffrance, je dirais que c'est pas le mot, parce qu'ils ont été très coucounés, nos jeunes. Je pense qu'il manque énormément dans l'éducation nationale de... Alors, je vais être un peu sévère. Je ne vais pas me faire aimer de tous les élèves, si on m'entend. Mais je pense qu'on manque un peu d'autorité. J'ai pu constater divers faits qui n'ont pas été corrigés pour l'élève. Et je pense qu'on manque un petit peu de Marcel Pagnol, des fois. Voilà. Sans être trop dur, hein, bien sûr. Mais on les a beaucoup coucounés, nos jeunes. Et aujourd'hui, il y a... Je trouve qu'en plus avec l'intelligence artificielle qui est arrivée, des fois, ils me font un peu peur. Donc, il faut vraiment qu'on les préserve là-dessus. Parce qu'on reste... L'intelligence artificielle va pouvoir vous donner certaines réponses, mais ne vous donnera pas ce côté humain qui est justement, nous, les AESH,
la réflexion,
nous pouvons apporter. Exactement.
Voilà. Le regard critique l'écoute, sur le monde, l'écoute.
L'écoute, l'affection qu'on peut leur donner aussi. Souvent, on me dit que quand on est AESH, il ne faut pas donner d'affection. Moi, j'en donne tous les jours. Voilà, je m'attache énormément à mes élèves. Et il m'arrive d'avoir encore des nouvelles de mes anciens élèves. Et j'en suis ravie. J'en suis ravie.
Merci beaucoup, M, d'être passé sur l'antenne de Radio Présence dans
avec
le Lot.
Avec plaisir, merci à vous.
Et j'espère qu'on vous reverra très bientôt sur notre antenne.
Avec grand plaisir. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.